RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Il est 9h10, le débat du jour ce matin avec trois débatteurs. Jérôme Cordelier, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef au magazine Le Point, chargé de la spiritualité. Vous publiez notamment Après la nuit, c'est chez Calman Lévy. Frédéric Ponce, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter spécialiste des questions militaires. L'Arménie va-t-elle disparaître? C'est chez Arthez. Ilyes Zoari, bonjour.
Bonjour.
Président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Essayiste, également expert en géopolitique et en démographie. Tous les trois avec vous, on va ce matin évidemment à revenir sur l'élection américaine, Louis Dauphren.
Et oui, bien sûr, le monde est toujours sidéré, hein, puisque Donald Trump a été très très largement réélu. Et donc ça appelle beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en cause aussi peut-être, y compris sans doute aussi par les médias qui avaient projeté une victoire de Kamala Harris, ou peut-être désiré pour beaucoup d'entre eux une victoire de Kamala Harris. Aujourd'hui, il semble que ce soit, enfin c'est pas il semble, c'est la réalité est ce qu'elle est, il faut l'accueillir telle qu'elle. Et on va en voir toutes les implications avec nos trois invités.
Et en un mot, dites-nous par mail direct@rcf.fr quel sentiment est le vôtre ce matin après cette réélection de Donald Trump. Direct@rcf.fr, direct@radionotredame.com.
C'est donc, semble-t-il, l'Amérique déclassée qui a porté au pouvoir Donald Trump, mais peut-être pas seulement, parce que quand même, les écarts de voix, les écarts entre les grands électeurs sont quand même très importants et on ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Le vote des femmes n'aura pas suffi pour Kamala Harris. Le vote non plus des stars, des célébrités qui s'étaient engagées à ses côtés. Et donc tout cela est analysé, dépiauté, si je puis dire, par les médias qui essaient de comprendre ce phénomène. Un phénomène que l'on rattache à une vague aussi mondiale, y compris européenne. Comment l'Europe doit se positionner par rapport à cette nouvelle donne, c'est ce dont nous avons beaucoup parlé ce matin, notamment avec Arnaud Montebourg et d'autres invités. Et on va voir avec Frédéric Ponce, Ilyes Zoari et Jérôme Cordelier ce qu'il en est, sachant que nous devrions être rejoints aussi dans quelques instants par Jean-Claude Beaujour, qui préside le Forum Transatlantique et qui est à Washington. Il est aussi vice-président de France-Amérique. Frédéric Ponce, d'un point de vue géopolitique, aujourd'hui, on raisonne différemment d'hier.
Oui, parce que cette élection a été précédée par un certain nombre de déclarations de Donald Trump, alors des déclarations de campagne, mais qui s'inscrivent quand même dans une continuité assez exceptionnelle sur le plan des idées. Depuis 2016, on sait ce que pense Donald Trump, on sait quel est son fil rouge, et notamment sur le plan international, on peut dire qu'il n'a pas de doctrine, mais un fil rouge. Ce fil rouge, c'est America First, avec, il se décline en deux mots, c'est protectionnisme et isolationnisme. Et à partir de là, on peut estimer que la relation des États-Unis avec le reste du monde, notamment avec l'Europe, va évoluer. Il y a des constantes, on les connaît, c'est le bras de fer avec la Chine, commercial, militaire et politique. Ça va continuer dans la ligne de Joe Biden, d'ailleurs. Le soutien indéfectible à Israël, je pense que Donald Trump ne tordra pas le bras de Netanyahou pour faire arrêter cette guerre ou les guerres à Gaza et au Liban.
Donc pas d'évolution notable sur ce point.
Sur ce plan-là, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. En revanche...
Est-ce l'avis d'Ilyes Zoari? On va tout de suite poser la question.
Non, mais attendez, je termine. Oui. En revanche, pour l'Europe, là, beaucoup de choses vont changer.
On commence par ce conflit à Gaza, Ilyes Zoari.
Effectivement, Donald Trump est un soutien indéfectible à Israël. C'est un soutien presque... que l'on pourrait presque qualifier d'aveugle, même si en réalité, je pense qu'il est capable, contrairement à bien d'autres présidents américains auparavant, avant lui, de tordre le bras, s'il le faut, à Israël, s'il estime en tout cas que la politique israélienne commence à nuire véritablement aux intérêts américains, ce qui d'ailleurs commence à être le cas dans la région.
Dans quelle mesure ?
Ben, il y a un phénomène de rejet de plus en plus important des États-Unis dans la région, qui ne va faire qu'augmenter, et... On sait également que plus la guerre en Israël, donc menée par Israël contre le Liban, contre Gaza, durera, plus cela sera de nature à augmenter l'influence de l'Iran dans la région, ainsi que des mouvements politiques d'opposition islamiste. On a vu d'ailleurs le succès des islamistes récemment en Jordanie. Donc voilà, donc ça risque de nuire à terme aux intérêts américains. Je pense que là, Donald Trump aura le courage, contrairement à ses prédécesseurs, de tordre le bras. De taper du poing sur la table pour pousser Israël à mettre un terme à cette politique guerrière. Et puis d'ailleurs, n'oublions pas que Donald Trump lui-même, même si c'est un adepte des déclarations incendiaires, violentes, brutales en politique étrangère, même à l'ONU, ce n'est pas en réalité quelqu'un de véritablement va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui en réalité n'aime pas trop les guerres. Et c'est, je dirais, au risque de surprendre certains, que c'est plus un faiseur de paix qu'un initiateur de guerre. Voilà.
Et donc on peut attendre quelque chose qui bouge sur ce terrain-là.
Je pense que c'est possible.
C'est un pragmatique. Hein, aussi.
Un pragmatique, exactement. Très pragmatique.
Alors
voilà.
Il peut effectivement,
tout à fait. Notamment
comme
en Europe.
Le dit Yes, voilà. Essayer de calmer Netanyahou. Mmh. Moi, je n'y crois pas. Il va laisser cette guerre aller jusqu'au bout, cette guerre israélienne, en sachant qu'Israël approche de ses buts de guerre, la destruction du Hamas et l'affaiblissement significatif du Hezbollah, dans un contexte où l'Iran est affaibli. L'Iran est en train de perdre une de ses marionnettes essentielles au Proche-Orient, c'est-à-dire le Hezbollah, qui intervenait aussi bien en Syrie qu'au Liban. Et donc, Trump n'est pas mécontent, finalement, des résultats obtenus par Netanyahou.
Les chrétiens, la droite chrétienne américaine qui a soutenu Donald Trump a-t-elle des exigences en matière de protection des chrétiens d'Orient ?
Pas vraiment. Leurs exigences portent plutôt sur Israël, sur la protection des juifs. Les chrétiens d'Orient, du Liban, d'Irak et d'ailleurs, ne sont pas une priorité pour les évangélistes américains.
C'est le moins que l'on puisse dire. Il y a une véritable déconnexion entre les deux. D'ailleurs, ça nous renvoie d'ailleurs donc on parle, pour revenir aux évangélistes américains qui sont assez nombreux, qui seraient aujourd'hui à peu près un quart de la population américaine, même si certaines études disent qu'ils seraient plutôt peut-être deux, trois fois moins nombreux que ce qu'on pense. Mais en tout cas, toujours est-il que ce sont plusieurs dizaines de millions de personnes. Et parmi ces dizaines de millions de personnes, vous avez plusieurs millions, peut-être une vingtaine ou une quinzaine, qui sont ce qu'on appelle les sionistes chrétiens. Mmh. Aujourd'hui, qui sont un phénomène un peu particulier, qui consiste en fait à un soutien aveugle à Israël. En gros, il y a une manière, je dirais une vision assez binaire des choses au niveau international. En gros, il y a le bien, le mal, nous sommes les gentils, les autres sont les méchants. Il n'y a pas de véritable travail de réflexion et d'analyse avant de prendre position, notamment sur la question israélienne. Il y a une sorte de paresse intellectuelle, d'ailleurs, en la matière, et je dirais même un éloignement du message du Christ, par rapport au message du Christ. D'ailleurs, quand on observe les attitudes, les réactions de ce qu'on appelle donc, les évangélistes, en particulier des sionistes américains, des sionistes chrétiens aux États-Unis, on est assez surpris par le manque de compassion par rapport au drame humain qui se déroule aujourd'hui en Israël. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même un certain éloignement par rapport au message angélique du Christ.
Un petit complément.
Et par rapport, juste pour terminer. Et par rapport aux chrétiens d'Orient, ça nous renvoie notamment à la déclaration qui avait été faite en 2006 par les représentants des églises chrétiennes d'Orient, de Jérusalem notamment, qui avaient fait une déclaration commune dans laquelle ils condamnaient l'attitude des sionistes chrétiens, qu'ils considéraient comme une fausse doctrine, pour ne pas dire une hérésie peut-être. Voilà, et car effectivement il y a une déconnexion totale entre les deux aujourd'hui, tout à fait.
Oui, un petit complément,
Frédéric Pons,
ce que vient de dire Iliès, qui intéressera je pense les auditeurs. C'est ce qui concerne l'Arménie. Je travaille beaucoup sur l'Arménie, là, depuis plusieurs mois, et je suis frappé de voir que les chrétiens américains, les évangélistes américains, ou même les catholiques américains, sont très peu intéressés par la question arménienne, ce petit pays qui est menacé par l'Azerbaïdjan. Il y a là-bas, c'est vrai, peut-être 3 millions de chrétiens, ça n'est pas énorme, mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et les Américains ne s'en occupent pas.
Et donc c'est quand même un paradoxe que ces milieux-là ne parviennent pas à se parler, ni même à entrer peut-être même simplement en dialogue, en connexion, pour se faire connaître l'un l'autre. On a deux milieux qui sont, semble-t-il, très étanches, alors qu'ils partagent tous les deux une foi au christianisme.
Tout à fait. Puis d'ailleurs, depuis que les États-Unis ou les pays anglo-saxons globalement ont commencé à s'intéresser à cette région du Moyen-Orient, et ça n'a eu qu'un impact très négatif sur les chrétiens d'Orient. Hein, comme je l'avais rappelé lors d'une ancienne émission auparavant, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Donc, 12 siècles de domination chrétienne musulmane de la région, sans tenir compte de la période des croisades, n'avaient jamais remis en cause le statut chrétien de la ville de Bethléem. Il aura suffi de quelques décennies de politique d'agression israélienne portée à bout de bras par les anglo-saxons, en particulier les États-Unis, pour que Bethléem ne soit plus une ville chrétienne. Et effectivement, il y a une déconnexion très importante entre les deux aujourd'hui. C'est une chose qui est régulièrement reproché par les chrétiens d'Orient, qui parfois d'ailleurs considèrent que les chrétiens d'Occident, en particulier aux États-Unis, ne sont plus vraiment de véritables chrétiens. Et ça se voit aussi dans le silence aujourd'hui qui existe parmi les chrétiens d'Occident et surtout parmi les chrétiens américains sur les persécutions de plus en plus importantes qui sont faites contre les chrétiens d'Israël, qui atteignent aujourd'hui des niveaux records. Et puis d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que, vous savez, est-ce vraiment étonnant pour les chrétiens évangélique pour une certaine partie donc des chrétiens des États-Unis, leur pays, c'est un peu la Nouvelle Jérusalem, quelque part. Voilà. Donc, pour eux, l'Orient, c'est l'Ancien Monde.
C'est un archaïsme.
Voilà. Mais hélas. Voilà.
Jérôme Cordelier, et puis on va à Washington juste après retrouver Jean-Claude Beaujour.
Non, juste sur les leçons, moi je pense que bon, c'est un séisme géopolitique, hein, il y aura des conséquences assez importantes sur la marche du monde, mais il ne faut pas négliger évidemment la réelle politique. Hein. D'ailleurs, on l'a vu déjà dans le premier discours qu'a fait Trump, hein, déjà, qui est un discours un peu émoussé par rapport au personnage qu'il est. Le facteur religieux a été très important, hein, il faudra le décortiquer de manière précise, parce qu'on voit que Donald Trump prend dans tous les groupes confessionnels. Ce qui est intéressant aussi, surtout sur une radio comme Radio Notre-Dame et RCF, de radio chrétienne, c'est de voir comment cet homme, qui est vraiment aux antipodes quand même, on peut dire, du comportement chrétien dans sa vie personnelle, hein, c'est-à-dire plusieurs fois divorcé, une vie dissolue, pris dans les scandales financiers, dans les scandales sexuels, a réussi cette captation spirituelle, on peut dire, sur les chrétiens identitaires. Donc ça interroge les États-Unis, mais ça interroge plus globalement le monde aussi. Et ensuite, je pense qu'il y a une chose à aussi aborder, qu'on a commencé à aborder un peu dans le détail microscopique, mais c'est donc ce facteur religieux, mais aussi le facteur personnel. Et donc, c'est très important chez Trump, le facteur personnel. D'ailleurs, on l'a vu, ce corps, il a joué beaucoup sur son corps, hein, pendant cette campagne. Il en a parlé, c'est un mot qu'il a utilisé dans son discours, hein, le mot corps, alors que normalement, il fait des discours qui sont susceptibles d'être accessibles à la fois à la ménagère et à l'enfant, enfin tout le monde essaye de brasser large. Et par exemple, d'un point de vue international, ce qui va jouer beaucoup, on a parlé du Moyen-Orient, mais c'est aussi sur l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un homme qui méprise Zelensky, pardon, je me suis trompé.
Vladimir,
voilà. Et donc, ça va jouer évidemment sur la guerre en Ukraine. Hein. Est-ce qu'il va le faire le marchepied pour Poutine dans cette partie du monde? Et ensuite, et je terminerai là, on voit bien un resserrement du monde vers une dimension autocrate. Donc ça aussi, ça va peser la dimension personnelle et la dimension autocratique de tous ces leaders qui sont dans une vision du monde qui est plus rétrécie, évidemment, que une vision plus planétaire, qui est un peu en opposition par rapport à une globalisation assez large du monde et des pensées.
On prend la mesure. Ilia Zouari,
rapidement sur ce que disait M. Ponce. Effectivement, je pense comme M. Ponce que Donald Trump laissera Israël encore terminer sa politique, essayer de atteindre ses objectifs. Mais par contre, je pense qu'il fixera une limite temporelle. Voilà, ce qui n'a pas été le cas jusqu'au présent. Voilà.
Et on parlera de l'Ukraine dans un instant. Jean-Claude Beaujour, bonjour.
Bonjour.
Il est 3h du matin à Washington. Je vous remercie d'être avec nous ce matin parce que c'est sympathique de nous faire l'amitié de votre présence. Vous êtes avocat d'affaires, président du Forum Transatlantique, vice-président de France-Amérique. Est-ce qu'on peut avoir votre appréciation sur la manière dont c'est vécu chez vous? À Washington, Kamala Harris a fait quasiment le plein des voix. Hein. 96%, Trump est tout à fait résiduel. Hein.
Oui, mais la circonscription de Washington DC est une petite circonscription. Il y a très peu d'électeurs. Ce qui est plutôt important ici, c'est qu'il y a un vote massif en faveur de Donald Trump. Celui-ci emporte bien évidemment la présidence, un nombre de grands électeurs qui est qui est ce qu'il est, plus de 290 grands électeurs. Et puis surtout, le Congrès sera républicain. La Cour suprême l'est déjà majoritairement pour employer ce mot qui est bien réducteur, parce qu'il a quasiment six juges qui lui sont plutôt favorables sur les 9 que comprennent la Cour suprême. Donc effectivement, il a l'ensemble des éléments en main. Ce qui peut surprendre malgré tout, c'est qu'en dépit de tout ce qui a été dit, en dépit des déclarations, etc., il y a un vote, et je respecte le suffrage universel, il y a un vote massif qu'il faut interpréter, il faut s'interroger sur le message qu'a voulu envoyer l'ensemble de la population américaine. Parce que hier, non seulement c'est le peuple américain qui a voté, mais on s'est beaucoup interrogé avec d'autres Européens en fin de journée, hier après-midi, qui consiste à se demander quel impact impact cela peut avoir, y compris sur l'évolution de nos propres démocraties. Est-ce que en Europe, par exemple, dans les prochains scrutins qui sont à venir, est-ce que les Européens vont aller dans ce sens où effectivement il y a une coloration très très forte? Et cet après-midi, lorsque Madame Harris s'est exprimée, elle a été obligée non seulement de reconnaître sa défaite, mais aussi d'exprimer, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Elle a beaucoup parlé de la défense de la démocratie, elle a beaucoup parlé d'un certain nombre de valeurs, et pourtant, le peuple américain, dans sa majorité cette fois, lui a tourné le dos, n'a pas adhéré aux propositions qu'elle faisait, et donc ça interpelle. La dernière fois, Donald Trump avait gagné en nombre de grands électeurs, mais il avait perdu le suffrage populaire, il n'était pas majoritaire en termes de voix dans l'ensemble du pays. Cette fois, sa victoire est très nette.
Comment expliquez-vous, Jean-Claude Beaujour, qu'avec le Capitole, qu'avec un discours masculiniste, avec les excès de Donald Trump, avec tout ce qu'il a pu représenter, tout ce que les médias ont pu dire de lui, comment expliquez-vous aussi que, comme Kamala Harris se présentait comme la candidate des institutions, de la modernité, du progrès, tout un discours sur les valeurs, que ça n'ait pas du tout fonctionné du côté démocrate et que c'est fonctionné du côté de Trump de manière absolument stupéfiante?
Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs explications qui sont possibles. La première, c'est que dans un système bipartisan, vous avez le choix entre A et B. Et là, pour le coup, Madame Harris a d'abord perdu l'élection parce que probablement, et là encore, il est peut-être un petit peu trop tôt, mais on le verra quand on va analyser en profondeur l'ensemble des résultats. Madame Harris a perdu probablement, tout d'abord techniquement, parce qu'elle n'a eu que 3 mois de campagne, ce qui est finalement assez court pour faire une campagne de cette nature. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où elle se présente à la mi-juillet, 30% des Américains ne savent pas qui elle est. Le vice-président n'a pas une marge de manœuvre extrêmement importante. Il est souvent réduit au silence. Souvenez-vous d'ailleurs que la relation président-vice-président est toujours une relation un peu compliquée. Juste pour mémoire, lorsque Kennedy était président, il tenait absolument à ce que son vice-président Lyndon Johnson se taise. Il était en conflit, il ne souhaitait pas que son vice-président s'exprime. Donc c'est la première difficulté de Mme Harris, qui, de surcroît, était la sortante de candidats qui ne se représentaient pas. Il est difficile, il lui était difficile, donc il faut lui reconnaître, après on verra les autres aspects, mais il est difficile d'être le sortant d'un candidat, donc d'avoir une politique ou de proposer quelque chose de fondamentalement novateur, alors que indirectement, elle était aussi comptable de la politique de Joe Biden. Et donc c'était sa difficulté, faire la différence par rapport à une politique qu'elle avait soutenue.
Jean-Claude Beaujour, je suis obligé de vous arrêter pour les infos. On va laisser passer les infos dans quelques instants. Vous restez bien avec nous, on va vous retrouver juste après. On vous retrouvera aussi autour de questions géopolitiques liées à l'Ukraine. Je vous propose que notre débat continue avec Ilias Zouari, Frédéric Ponce et Jérôme Cordeli après les infos, Pierre Dubois.
Et oui, on retrouve Cécile Mérieux. Continuez à réagir par mail, direct@rcf.fr, direct@radionotredame.com. On lira vos réactions tout de suite après la page information.